Radio Vatican, France-Afrique.
Mes auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. La prière de l'Angélus présidée par le pape depuis la bibliothèque du Palais apostolique, la messe présidée par Mgr Rino Fisichella à l'occasion de la célébration du dimanche de la parole de Dieu au Vatican et la rétrospective de la vie de l'Église Famille de Dieu en Afrique constitueront les points saillants de l'actualité de l'Église de cette édition de notre programme. Également dans cette édition, l'actualité sociopolitique africaine. À tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Souffrant d'une sciatique, le pape qui n'a pu présider la messe du dimanche de la parole de Dieu comme prévu a récité la prière mariale de l'Angélus à la bibliothèque du Palais apostolique. Dans son exhortation précédant cette prière, s'appuyant sur l'évangile du dimanche 24 janvier qui relate le début de la mission de Jésus, François a indiqué que la prédication de Jésus se résume en ces termes. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à l'évangile. Pour le Saint-Père, c'est un message qui nous invite à réfléchir sur deux thèmes essentiels, le temps et la conversion. Le temps doit être compris comme la durée de l'histoire du salut opéré par Dieu. C'est le moment historique où Dieu a envoyé son Fils dans le monde et où son royaume est devenu plus que jamais proche, a expliqué l'évêque de Rome. Cependant, a poursuivi le pape, le salut n'est pas automatique. Le salut est un don d'amour. Et, en tant que tel, offert à la liberté humaine. Quand on parle d'amour, on parle toujours de liberté. Un amour sans liberté n'est pas un amour. Il peut être un intérêt, une peur, beaucoup de choses, mais l'amour est toujours libre et exige une réponse libre, c'est-à-dire qu'il exige notre conversion. Le Saint-Père a par la suite exhorté à répondre à l'appel du Christ à l'image de Simon, André, Jacques et Jean qui, lorsque Jésus les appela, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Cette conversion appelle à changer de mentalité et de vie, ne plus suivre les modèles du monde, mais ceux de Dieu. Il s'agit d'un changement décisif de vision et d'attitude, a aussi indiqué le Saint-Père. Constatons que le péché a introduit dans le monde une mentalité qui tend à s'affirmer contre les autres et contre Dieu, en ayant parfois recours à la tromperie et à la violence, le pape appelle à s'imprégner du message de Jésus en reconnaissant notre besoin de Dieu et de sa grâce. Après avoir récité la prière de l'Angélus, le Saint-Père a imparti sa bénédiction à tous ceux qui l'ont suivi à travers les différents moyens de communication sociale.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Après la prière de l'Angélus, le pape a notamment indiqué que le 20 janvier dernier, à quelques mètres de la place Saint-Pierre, un Nigérien sans abri de 46 ans, nommé Edwin, a été retrouvé mort de froid. Son histoire rejoint celle de nombreux autres sans-abri qui sont récemment morts à Rome dans les mêmes circonstances dramatiques, a indiqué François. Le pape a invité à prier pour Edwin. Pensons à Edwin, pensons à ce que cet homme a ressenti dans le froid, ignoré de tous, abandonné même de nous. Prions pour lui, a ajouté le pape. La célébration du dimanche de la parole de Dieu au Vatican a été marquée par une messe célébrée à l'autel de la chaire de la basilique Saint-Pierre. Institué par le pape François en septembre 2019, le dimanche de la parole de Dieu se tient chaque troisième dimanche du temps ordinaire pour célébrer et réfléchir et proclamer la parole de Dieu. Cette année, la messe a été présidée par Mgr Rino Fisichella, président du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le pape François, souffrant de nouveau d'une sciatique, n'a pu la présider. En ce dimanche de la parole, nous écoutons Jésus qui annonce le règne de Dieu. Voyons ce qu'il dit et à qui il le dit. A exposé d'emblée Mgr Rino Fisichella dans l'homélie préparée par le pape pour cette messe. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Jésus commence à prêcher en évoquant la proximité de Dieu. En effet, il ne demeure pas comme nous sommes souvent tentés de penser là-haut dans les cieux, lointain, séparé de la condition humaine. Mais il est avec nous, a fait remarquer le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le temps de la distance est fini lorsque Jésus s'est fait homme. Cette proximité est le commencement de l'évangile, a encore signifié Monseigneur Fisichella au nom du Saint-Père. La parole de Dieu permet de toucher du doigt cette proximité. C'est l'antidote à la peur de rester seul devant la vie. Par sa parole, le Seigneur console, c'est-à-dire qu'il est avec celui qui est seul. Mais si la parole de Dieu donne la paix, elle ne laisse pas en paix, fait noter Monseigneur Fisichella. C'est également une parole de conversion. Fort de la proximité de Dieu, le temps où l'on prend ses distances avec Dieu et avec les autres est fini. Celui qui fait l'expérience de la proximité de Dieu ne peut pas mettre à distance le prochain, ne peut pas l'éloigner dans l'indifférence. Cela n'est pas chrétien, rapporte Monseigneur Fisichella de cette homélie préparée par le pape. Dans un second temps, cette homélie du pape propose d'observer à qui parle Jésus. Il s'adresse à de simples pécheurs, travaillant durement nuit et jour. Jésus commence ainsi à prêcher non pas par le centre, mais par la périphérie, pour montrer que personne n'est en marge du cœur des dieux. Tous peuvent recevoir sa parole et le rencontrer en personne. Terminant cette homélie, Monseigneur Rino Fisichella a exhorté les fidèles pour le compte du Saint-Père à ne pas renoncer à la parole de Dieu. C'est la lettre d'amour écrite pour nous par celui qui nous connaît comme personne d'autre. En la lisant, nous entendons à nouveau sa voix, nous contemplons son visage, nous recevons son esprit. La parole nous fait proche de Dieu. Ne la tenons pas loin, portons-la toujours avec nous, en poche, dans le téléphone, donnons-lui une place digne dans nos maisons, a invité Monseigneur Fisichella. Pour faire cela, demandons au Seigneur la force d'éteindre la télévision et d'ouvrir la Bible, de fermer le téléphone portable et d'ouvrir l'Évangile, a recommandé Monseigneur Fisichella au nom du Saint-Père. En raison de la récurrence de la sciatique dont souffre le Saint-Père, la rencontre prévue lundi matin avec le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège est reportée à une date ultérieure. Quant aux secondes vêpres de la solennité de la conversion de Saint-Paul, qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, elles seront présidées lundi soir par le cardinal Kirk Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens en la basilique romaine de Saint-Paul. Paul hors les murs, toujours à partir de 17h20, heure de Rome. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur les ondes courtes sur la fréquence 13 830 kHz. Rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Africa, commençons cette rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique par la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans l'archidiocèse de Dakar au Sénégal.
La semaine de prière pour l'unité chrétienne dans l'archidiocèse de Dakar a débuté par une célébration œcuménique à la paroisse universitaire Saint-Dominique, ce lundi 18 janvier. Cette célébration, présidée par le responsable diocésain de la commission œcuménique, le frère Aurel da Silva, a connu la participation du pasteur Emmanuel Sarr de l'église protestante du Sénégal, du pasteur Djibril Diallo de l'église luthérienne et des fidèles des différentes églises chrétiennes. L'exhortation au cœur de cette célébration a été faite par le pasteur Diallo. Il a commenté le symbolisme de la vigne et des sarments dans l'évangile selon Saint Jean.
Jésus dit clairement que les sarments doivent porter du fruit. Et si le sarment ne porte pas du fruit, il sera coupé et jeté. Voilà le symbolisme. Il nous parle de la vie chrétienne. Comment le chrétien doit se comporter ou quelle attitude doit-il avoir par rapport à l'attachement qu'il doit avoir à Dieu.
Et le pasteur Diallo d'insister sur l'unité chrétienne.
Le Seigneur Jésus a donné l'image d'un arbre. Et l'arbre, quand vous voyez ses branches, n'ont pas forcément les mêmes directions, mais quand même issues d'un même tronc. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que malgré les diversités, mais quand même nous avons eu la même source qui est la foi en Christ. Et c'est ça qui nous dit.
La semaine de prière se poursuivra par l'échange de chaire le dimanche et sera clôturée par une prière œcuménique à l'église protestante du Sénégal à la rue Carnot le lundi 25 janvier. Clément Awadjinou Dakar pour Radio Vatican.
La 117e assemblée plénière ordinaire de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire qui s'est clôturée le dimanche 24 janvier par la messe solennelle des 125 ans de l'évangélisation du pays à la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand Bassam s'est ouverte le mardi 19 janvier dernier en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Retour sur cette cérémonie d'ouverture avec notre correspondant local.
Monseigneur Paolo Borgia a invité tout d'abord les pasteurs de cette église ivoirienne à rendre grâce à Dieu pour les prodiges de son amour durant toutes ces années et demander humblement pardon pour d'éventuelles erreurs, surtout faire un bilan de l'activité de l'église et de réfléchir sur son action pastorale pour le futur, leur a signifié le nonce apostolique. Poursuivant son intervention, Monseigneur Paolo Borgia a appelé l'église de Côte d'Ivoire à être davantage une église en sortie, une communauté ecclésiale qui s'implique, c'est-à-dire qui s'engage sans peur, et qui avec constance et sans compromis va jusqu'au bout, qui réduit les distances et qui s'abaisse vers les autres pour toucher dans les plus nécessiteux les membres souffrants du Christ. L'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral étant inscrit au cœur de cette rencontre, le nonce apostolique a exhorté l'église de Côte d'Ivoire à contribuer aussi avec les activités dans le domaine éducatif à promouvoir dans ce pays un humanisme toujours nouveau qui favorise la rencontre et le dialogue qui consente un véritable et authentique développement et qui constitue un chemin de paix. Une telle mission de l'Église, selon Monseigneur Ignace Bessidogbo, président de la conférence épiscopale ivoirienne qui a ouvert les travaux, interpelle tous les acteurs, partenaires, membres de l'Église ou non, dont les parents, les amis, les enseignants, les journalistes, à jouer pleinement leur rôle avec beaucoup plus de responsabilité. Marcel Ariston Blé, Grand Bassam, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
L'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale était en visite de solidarité dans le diocèse de Butembo, Béni, en République démocratique du Congo.
Les évêques membres de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, l'ACEAC, réunissant les épiscopats du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, feront de leur mieux pour convaincre les gouvernants des trois pays à instaurer la paix dans la région. Déclaration du président en exercice de l'association, Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga. Il s'exprimait au cours de la messe contre toute détresse qu'on célébrait le dimanche 17 janvier sur l'esplanade de l'église paroissiale Sainte-Thérèse d'Avila de Bénicité dans le diocèse de Butembo Béni. C'était au troisième jour de la visite de solidarité et de réconfort effectuée dans le diocèse. La messe a été présidée par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy, qui a condamné la duplicité de certains fils de la contrée qui collaborent avec les égorgeurs de nuit pour tuer leurs frères. L'évêque de Butembo Béni, Monseigneur Melchisedek Sikouli, a décrit le contexte général.
Une insécurité récurrente marquée par des enlèvements, des kidnappings et des tueries sauvages d'au moins 6000 personnes.
Le lundi 18 janvier, à Béniville, Mgr François-Xavier Maroy et Marcel Madila ont concélébré en l'église paroissiale de Benipaïda. Au même moment, les évêques Melchisedek Sikouli de Butembo Béni et Joseph Moko Didiofa et vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo sont allés prier avec les fidèles en l'église paroissiale de Mbao. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Les évêques du Cameroun ont organisé un séminaire autour de la lettre encyclique du pape François Fraterli Tutti. C'est ce que nous a fait savoir notre correspondante locale.
Dans un contexte national de reconstruction et d'apaisement des foyers de tension, l'encyclique du pape François Fraterli Tutti répond parfaitement aux défis actuels et elle a servi à meubler les échanges au cours de ce séminaire annuel des évêques du Cameroun. Dans son homélie, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Julio Mourat, a rappelé qu'aucune personne n'est exclue de la paix et du salut que le Christ vient donner au monde. Nul ne doit donc se laisser intimider par la réputation qui le précède. Au contraire, comme le publica Lévi, chacun doit entendre l'appel de Jésus et croiser son regard. Un appel et un regard plein de tendresse et de bonté qui invite à la conversion. Le président en exercice de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Abraham Comé, a, entre autres, relevé trois motifs d'action de grâce qui ont marqué le séminaire et réjoui les fidèles du Cameroun. Il s'agit de l'ordination épiscopale du nouvel évêque des Eka, Mgr François Achille Yabi, de la nomination de Mgr Michael Bibi comme évêque titulaire de Boya, de la nomination de l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, comme membre du dicaster pour le service du développement humain intégral, et de l'annonce par le nonce apostolique Mgr Giulio Murat de la visite prochaine au Cameroun du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, visite qui aura lieu du 28 janvier au 3 février 2021. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Des sources sécuritaires maliennes ont annoncé la mort d'au moins 3 soldats maliens tués dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre du Mali, dans 2 attaques attribuées aux djihadistes qui ont perdu 5 hommes dans ces opérations. 7 militaires maliens ont été blessés. Au Ghana, les hommages nationaux à l'ancien président Jerry Rawlings, décédé le 12 novembre 2020, ont commencé dimanche et dureront 4 jours avant les funérailles le 27 janvier prochain à Accra, la capitale ghanéenne. Un haut responsable indépendantiste sahraoui a menacé dimanche le Maroc d'une escalade militaire quelques heures après que le Front Polisario ait bombardé une zone sous contrôle marocain dans le territoire disputé de Sahara occidental. La suite de notre programme, c'est avec le père jésuite Martin Barati qui continue de nous présenter l'encyclique du pape Fraterli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Rappelons que ce chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Nous continuons à lire le premier petit point qui parle des rêves qui se brisent en morceaux. Plus loin dans ce petit point, le pape parle de la fin de la conscience historique. Il montre qu'actuellement, on observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne se laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu. Le pape évoque un conseil donné aux jeunes. Si quelqu'un vous fait une proposition et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l'avenir qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit? Cette personne vous veut vide, déraciné, méfiant de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine et qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Le pape qualifie ces manières de penser de nouvelles formes de colonisation culturelle. N'oublions pas, affirme le pape, que le peuple qui aliène leurs traditions et qui, par une manière imitative, par violence sous forme de pression, par une négligence impardonnable ou apathie, tolère, colère, arrache leur âme, perdent avec leur identité spirituelle, leur consistance morale et enfin leur indépendance idéologique, économique et politique. Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice ainsi que les voies d'intégration consiste à vider de sens ou à instrumentaliser les mots importants. Que signifient aujourd'hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action. Dans un second point, le pape parle d'un monde sans un projet pour tous. L'encyclique fait remarquer que la meilleure façon de dominer et d'avancer sans restriction, c'est de semer le désespoir et de susciter une méfiance constante, même sous le prétexte de la défense de certaines valeurs. Aujourd'hui, note le pape, dans de nombreux pays, on se sert du système politique pour exaspérer, exacerber et pour polariser. Pour divers procédés, le droit d'exister et de penser est nié aux autres. Et pour cela, on recourt à la stratégie de les ridiculiser, de les soupçonner et de les encercler. Leur part de vérité, leurs valeurs ne sont pas prises en compte et ainsi la société est appauvrie et réduite à s'identifier avec l'arrogance du plus fort. De ce fait, la politique n'est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le développement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketing visant des résultats immédiats qui trouvent dans la destruction de l'autre le moyen le plus efficace.
Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine de la femme, c'est avec Marie-Josée Mondo Boisboileau.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société nous conduit aux États-Unis d'Amérique où Kamala Harris, maintes fois pionnière, a brisé mercredi un nouveau plafond de verre en devenant la première femme à accéder à la vice-présidence de ce pays. Fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, elle avait fait son discours de victoire en novembre, rendant un vibrant hommage à sa mère et à celles qui ont tant sacrifié pour l'égalité, la liberté et la justice pour tous. Shyamala Gopalan, la mère de Kamala Harris, était une biologiste indo-américaine et une militante des droits civiques de Chennai en Inde, une chanteuse de musique classique du sud de l'Inde. Elle a obtenu un doctorat en nutrition et endocrinologie à l'université de Berkeley en Californie en 1964. Les travaux de Shyamala pour isoler et caractériser le gène du récepteur de la progestérone ont stimulé les progrès de la biologie du sein et du cancer. Donald Harris, le père de Kamala Harris, est un économiste et professeur à St. Anne's Bay, à Jamaïque. En 1963, il s'est rendu aux États-Unis pour obtenir un doctorat à l'Université de Californie, Berkeley, qu'il a terminé en 1966. Il a rencontré sa future épouse, Shyamala Gopalan, par le biais du mouvement des droits civiques. Après la vague historique de colère contre le racisme et les violences policières, Kamala Harris promet avec le président des États-Unis, Joe Biden, d'éradiquer les injustices. Elle accumule déjà plusieurs titres de pionnière, diplômée de l'université Howard, fondée à Washington pour accueillir les étudiants afro-américains en pleine ségrégation. Elle rappelle régulièrement son appartenance à l'association d'étudiantes noires Alpha Kappa Alpha. Après deux mandats de procureur à San Francisco 2004-2011, elle avait été élue deux fois procureur général de Californie de 2011 à 2017, devenant alors la première femme mais aussi la première personne noire à diriger les services judiciaires de cet État. Puis, en janvier 2017, elle avait prêté serment au Sénat à Washington, s'inscrivant comme la première femme originaire d'Asie du Sud et seulement la deuxième sénatrice noire dans l'histoire. Vice-présidente, elle ne quittera pas tout à fait la Chambre haute. C'est elle qui, d'après la Constitution des États-Unis d'Amérique, pourra faire pencher la balance en cas d'égalité prévisible.
Place à présent à Donatien Nyembo pour la revue de la presse catholique africaine.
Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse catholique africaine. Deus Caritas Est, 15 ans après, actualité d'une encyclique pour le Bénin aujourd'hui. C'est ce qu'a titré la Croix du Bénin dans ses colonnes du vendredi 22 janvier dernier. Émission catholique constitue les foyers d'expression ultime de la maturité, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Au Bénin, la relecture d'émissions à partir de Deus Caritas Est reste une initiative pastorale de premier plan après 160 ans d'évangélisation, peut-on lire. Il convient aujourd'hui d'approfondir la conscience de l'amour dans la création et dans l'histoire du salut pour un engagement renouvelé au service de la charité. Quelle lecture suggère la première encyclique du pape Benoît XVI pour la mission catholique au Bénin, 160 ans après l'arrivée des premiers missionnaires? Quels sont aujourd'hui les lieux de réception attendus pour un développement harmonieux des personnes en République du Bénin? S'est interrogé le père Brice Wissou à la chaire cardinal Bernardin Gatin, section Bénin. Le peuple des dieux exhorté à se concentrer sur la résolution de la crise sanitaire de la COVID-19 a titré la semaine africaine dans ses colonnes de mercredi 20 janvier dernier. À l'occasion de la 51e semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens, dont la première journée a été consacrée aux ouvriers apostoliques de toutes les confessions religieuses, membres du Conseil œcuménique des églises du Congo, les baptisés ont prié pour la bonne santé de tous, lit-on dans cet hebdomadaire congolais. Monseigneur Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président du Conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo, a livré un message au peuple chrétien et aux hommes de bonne volonté, encouragé à accorder la plus haute priorité à la résolution de la crise sanitaire de la COVID-19. Cette semaine de prière universelle qui a pour thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance » est célébrée dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie à coronavirus COVID-19, peut-on lire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présenté par Françoise Nyamien. À tous et à toutes, merci de votre aimable attention et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt.